Go, go, la review d'Ipress JB.
Toute l'actu du jeu vidéo chaque matin dans tes oreilles. C'est pas sexy choucroute ça?
Y'a pas mieux pour frétiller comme des petites truites.
Comme des petites truites. La revue de presse JV.
Maison de qualité depuis 2017. Et ouais.
Plus stimulant que ton café et meilleur pour la santé.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes le jeudi 31 janvier 2019. Bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de JV chaque matin. J'espère que vous allez bien, que la vilaine tempête Gabriel ne vous a pas trop perturbé. Ce matin, on va surtout parler de Quantic Dream. Et oui, comme ça, hop, sans transition. C'est l'affaire qui a agité la planète gaming hier. Enfin, l'affaire, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'affaire, mais en tout cas, c'est une information très importante, que l'on soit fan ou pas du studio. Hein. D'ailleurs, vous le savez, personnellement, je ne suis vraiment pas très fan des productions Quantic Dream, mais il s'est passé quelque chose quand même d'assez important, puisqu'on a appris donc que Sony ne financerait plus les prochains jeux Quantic Dream. Le studio français accueille en effet NetEase dans son capital. Alors, il faut rappeler quand même qu'après 12 ans de fricotage avec la marque PlayStation, le studio de David Cage et de Guillaume de Fondomière n'a pas renouvelé donc sa collaboration avec Sony, qui avait, rappelons-le, financé ses trois derniers jeux en exclu, à savoir Heavy Rain, Beyond Two Souls et plus récemment Detroit Become Human. Rappelons justement concernant ce dernier, Detroit, qu'il reste le plus gros succès de Quantic, avec plus de 2 millions d'unités écoulées en seulement quelques mois. Et donc, tout comme The Nomad Soul et Fahrenheit en leur temps, le prochain titre du studio Quantic Dream sera multiplateforme avec la venue d'un nouveau camarade de jeu, le géant chinois NetEase Games. Je rappelle que c'est l'un des acteurs majeurs de l'internet et du jeu vidéo en Chine, et c'est un concurrent aussi direct d'un autre géant local, Tencent. NetEase rentre effectivement dans le capital de Quantic Dream sans que l'on connaisse encore vraiment le montant de l'investissement. Tout juste sait-on qu'il s'agit d'une participation minoritaire qui permettra au studio de rester totalement indépendant. En tout cas pour l'instant. On verra bien à l'avenir si NetEase veut augmenter ses parts. Guillaume de Fondomière a déclaré, je le cite, « Nous allons continuer de travailler sur PlayStation, qui est une plateforme que nous aimons et connaissons très bien, mais nous allons aussi considérer d'autres plateformes, puisque nous souhaitons rendre nos créations accessibles à autant de joueurs que possible à travers le monde. » De son côté, Ethan Wan, le vice-président de NetEase, a quant à lui déclaré, je le cite, « Nous sommes constamment à la recherche de studios qui complètent nos compétences dans la création des prochaines générations de jeux vidéo innovants. » L'excellence sans égale de Quantic Dream dans le domaine de la narration interactive et son expertise bâtie pendant 20 ans étaient exactement ce que nous cherchions. Donc, les premiers objectifs de cette collaboration, c'est donc des projets multiplateformes, c'est-à-dire que les prochains Quantic Dream ne seront plus cantonnés à la PlayStation, c'est-à-dire que ça va débouler sur Xbox, sur PC, sur Switch, ça me paraît peu probable, mais enfin, on verra bien. Et 150 recrutements à venir, surtout 150 nouveaux postes. Alors pourquoi ce divorce? On n'a pas encore toutes les données, bien sûr. On sait qu'il y a aussi les scandales qui ont été portés devant la justice concernant Quantic Dream. Est-ce que ça a joué? Est-ce que malgré le succès de Detroit, est-ce que l'investissement n'est pas rentable pour Sony et qui ne veut peut-être plus se contenter d'un simple jeu vitrine? Je ne sais pas, nous ne savons pas tout et il est fort probable qu'on ait plus d'infos dans les semaines, voire mois à venir. De son côté, quand même, le Figaro nous rappelle que le chinois NetEase démontre depuis plusieurs mois quand même un certain appétit envers les studios occidentaux de jeux vidéo. Et oui, puisque le Figaro nous rappelle qu'en juin dernier, il a investi déjà 100 millions de dollars dans le studio Bungie, qui a depuis mis fin à son contrat d'édition avec Activision. Une affaire dont on avait quand même longuement parlé dans cette émission. Je rappelle que Bungie développait Destiny pour Activision, et le studio est reparti avec la licence sous le bras. NetEase, là encore nous rappelle le Figaro, a par ailleurs investi en janvier 30 millions de dollars dans le jeune studio américain Second Diner, fondé par des ex-salariés de Blizzard, responsables notamment du jeu de cartes en ligne Hearthstone. Leur premier titre se déroulera dans l'univers des comics Marvel. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez de tout ça sur le Twitter de l'émission ou sur le Discord où vous voulez, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose, hein, ce divorce, alors je ne sais pas si on peut le qualifier ainsi, mais en tout cas entre Sony, la marque PlayStation, hein, plus précisément, et Quantic Dream, toujours est-il que je n'ai pas fait encore Detroit Become Human, j'avais vraiment détesté Beyond Two Souls, j'avais apprécié Heavy Rain, malgré vraiment certaines choses qui m'avaient fortement déplu, mais globalement j'avais plutôt apprécié. Donc, je me ferai mon opinion sur Detroit, un de ces quatre, quand le prix du jeu aura encore baissé. Mais est-ce que, selon vous, si parmi vous, il y a des fans de Quantic Dream, est-ce que ce divorce, pour vous, est quelque chose que vous voyez d'un œil un petit peu sévère, ou vous vous en tartinez les miches royalement? Vous me direz ça, et bien évidemment, comptez sur moi pour vous donner des infos supplémentaires, si celles-ci daignent tomber ces prochains jours. Petite news dédiée à nos amis tipeurs, chers tipeurs, sachez que la revue de presse rétro numéro 30 donc est disponible dès aujourd'hui. L'accès se fait simplement via la page Tipeee de l'émission. Si vous voulez nous rejoindre sur le Tipeee, le lien est dans la description. Je vous parle de Resident Evil 2, de l'accueil critique français et étranger, et je vous ai également traduit une vieille interview assez intéressante, et notamment quelques belles anecdotes, et surtout une moi qui me fait particulièrement plaisir et qui renvoie au début du remake d'Hero 2. C'est assez en tout cas je trouve ça assez intéressant, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça, c'est disponible pour fêter donc le début de cette saison 2 de la revue de presse rétro. Elle a mis du temps à revenir, mais là voilà, il y en aura une par mois, je le rappelle. Je vais vous balancer comme ça un petit extrait, un petit teasing. Allez, c'est parti. Le magazine The PlayStation amène Camilla sur le sujet Resident Evil 1.5. Et donc, Monsieur Camilla nous répond: « Nous avons demandé à Monsieur Sugimura, scénariste professionnel, de jeter un coup d'œil au scénario complet de la version 1.5. C'était en fait son premier point de contact avec le développement. Quand il les a lus, il nous a dit « Vous devriez les réécrire ». Ouais, tout simplement. Resident Evil 1.5 était en fait terminé à environ 70% à l'époque. Oui, vous voyez, je vous ai dit 60%, mais c'était 70%. Le magazine demande quels étaient certains des problèmes spécifiques que vous avez vus avec l'histoire, le scénario, les scénarios même des personnages de cette version 1.5, Monsieur Sugimura. Monsieur Sugimura répond, je le cite, « C'était trop réaliste. L'atmosphère sinistre du premier jeu, comme représentée dans des choses comme le manoir Spencer lui-même, la salle d'armure, les éléments clés, comme la boîte à bijoux, les pierres précieuses, etc. Tout ceci avait disparu. Le commissariat de police a également été transformé en bâtiment très moderne. En conséquence, tout semblait trop actuel et étrangement stérile. Ça ne ressemblait pas à un Resident Evil. Bien sûr, faire table rase et repartir à zéro sur un projet qui est déjà terminé à 70% n'est pas une mince affaire. Et dans un sens, je pense que c'était une décision très courageuse de la part des développeurs et de Monsieur Camilla. Hideki Kamiya d'ailleurs rebondit là-dessus en nous disant, je le cite, « Certes, il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part de tout le monde lorsque nous avons appris que nous étions en train de le refaire. Nous nous étions dit, cette fois-ci, on va bien faire les choses. Par conséquent, nous avons dû accélérer le rythme de développement après cela. » Sur le système de zapping, vous le savez très certainement, dans Resident Evil 2, en tout cas dans la version PlayStation d'origine, vous choisissez au début le scénario de Claire ou le scénario de Léon, sachant que chaque personnage a aussi deux scénarios. Bref, certaines scènes faites entrecroiser les personnages, ce qui ne manque pas de donner quelques incohérences, mais enfin bon, moi j'ai jamais trouvé ça très gravissime personnellement. Bref, sur le système de zapping, le scénariste Monsieur Sugimura nous dit « Pour vous dire la vérité, j'étais en fait opposé au système de zapping. Je savais que tout le travail allait de devoir tisser des récits multiples, mais Monsieur Kamiya ne voulait pas reculer. C'est ce que je veux faire dans Resident Evil 2, nous disait-il. Kamiya est le genre de personne qui, une fois qu'il a une idée claire de ce qu'il veut faire, s'obstine à la défendre jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il a demandé. » J'espère en tout cas que cette nouvelle revue de presse rétro vous plaira, et nous pouvons donc passer dès à présent à la suite. J'aimerais également ce matin souhaiter un joyeux anniversaire à l'association Emo5.com, qui a donc fêté il y a quelques jours de cela ses 16 ans. Et c'est sur le site du mag.emo5.com que Guillaume Verdun nous dit que si les origines remontent au milieu des années 90, c'est bien le 27 janvier 2003 que Emo5.com a été déclaré en préfecture. L'association débute donc sa 17e année qui, espère Guillaume Verdun, marquera un tournant pour la préservation de la culture numérique en France, on l'espère aussi. Il nous rappelle que les projets et événements ne manquent pas et que l'association souhaite démarrer 2019 sur de nouvelles bases. Ils sont actuellement en train de lancer la refonte du site principal. Ils viennent d'ouvrir une chaîne YouTube et un compte Instagram, par exemple. Donc je vous invite à aller suivre tout ça. Je vous mettrai le lien de toute façon de cet article dans la description de l'émission. Et donc pour célébrer cet anniversaire, nous dit Guillaume, il nous propose 6 interviews en vidéo réalisées lors de la soirée d'inauguration de la Paris Games Week, soirée durant laquelle l'association Emo5.com avait fêté ses 15 ans. Donc ça date d'il y a un an. On peut y retrouver les témoignages de Jean Z, de Fabrice Loury, de Cyril Drevet, d'Alain Hugues Lacour, Abrial Dacosta, de Dotnode, l'écrivain Daniel Ishbia, bref, du beau linge. Donc je vous mets le lien, vous pourrez aller écouter ça. C'est une association que j'aime beaucoup. Je suis d'ailleurs très heureux et fier de faire partie des membres d'Emo5.com, d'avoir pu donner un peu de mon matériel aussi l'année dernière. Il faut vraiment les soutenir un maximum, donc n'hésitez pas. Si vous avez la possibilité d'aider l'association, quels que soient vos moyens, il y a toujours un jeu, une machine, un composant, des revues aussi d'époque, il y a toujours quelque chose que vous pouvez donner pour alimenter quand même ce patrimoine auquel nous tenons tant. Donc, joyeux anniversaire un petit peu en retard, emo5.com, et on vous souhaite tout le meilleur pour les 16, allez, les 20 prochaines années. Et voilà, c'est ainsi que cette émission se termine, mais pas de panique, on se retrouve demain, même heure, même flux, même chaîne, pour un vendredi relax de toute beauté. Portez-vous bien, et on se retrouve donc très très rapidement, demain, et 7 jours sur 7, H24, bien sûr vous le savez, sur tous les flux possibles et inimaginables. Allez, très bonne journée à vous, bye bye.